France Inter.
Aujourd'hui, dans le souffle des volcans, une exploration de la Terre racontée par
Arnaud Guérin, géologue, photographe et auteur.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a environ 74 000 ans sur l'île de Sumatra en Indonésie, la Terre connaît l'une des plus grandes éruptions volcaniques des derniers millions d'années. Le supervolcan Toba explose avec une puissance colossale. Des quantités gigantesques de cendres et de gaz sont projetées dans l'atmosphère jusqu'à obscurcir le ciel à l'échelle de la planète. Certains scientifiques pensent que cet événement aurait provoqué un hiver volcanique durant plusieurs années, provoquant la baisse de la lumière, la chute des températures. La végétation est perturbée et cette crise écologique va toucher tous les êtres vivants. À cette époque, Homo sapiens n'est encore qu'une espèce parmi d'autres, mais des découvertes archéologiques en Afrique du Sud montrent que des groupes humains ont continué à vivre, à fabriquer des outils et à entretenir des foyers malgré cette période difficile. Autrement dit, nos ancêtres ont peut-être traversé l'une des plus grandes catastrophes volcaniques de l'histoire. Depuis ces temps lointains, les volcans n'ont jamais cessé de fasciner et d'inquiéter les humains. Longtemps interprétés comme des manifestations divines, ils sont devenus au fil des siècles des objets d'études scientifiques. Aujourd'hui, grâce aux satellites, aux capteurs sismiques, aux analyses géologiques, les volcanologues tentent de comprendre ces géants de feu et d'anticiper leur réveil. Explorer les volcans, c'est finalement raconter une longue aventure scientifique, mais aussi humaine, celle d'une espèce, la nôtre, qui depuis des dizaines de milliers d'années apprend à observer, comprendre et cohabiter avec une planète en perpétuel mouvement. Et c'est cette histoire volcanique que nous allons vous raconter.
Ceux qui étaient là ont assisté à un spectacle d'une ampleur inégalée. D'un point de vue scientifique, on ne peut même pas déterminer la masse de lumière et d'énergie dégagée et décrire à quoi ressemblait l'éruption de loin. Ça devait être incroyable, assez proche d'une explosion nucléaire. Cette éruption volcanique démesurée est survenue à un moment où l'humanité était si réduite qu'elle aurait pu très facilement s'éteindre à tout jamais.
Bonjour Arnaud Guérin.
Bonjour Mathieu.
Vous publiez une histoire de l'exploration des volcans, c'est aux éditions Glénat, et vous évoquez dès le début de votre ouvrage cette éruption du Toba, donc en Indonésie, il y a 73 500 ans à peu près. Vous dites que c'est l'éruption de tous les records.
Oui, alors notre planète fait des records. Alors cette éruption est une éruption des records. Il y en a une autre qui est un peu plus ancienne en Nouvelle-Zélande. Et puis il y en a une en 234 après Jésus-Christ, aussi en Nouvelle-Zélande, sur le même volcan. En fait, la relation entre les hommes et les volcans, elle est émaillée de grandes crises, de grandes éruptions qui font date dans l'histoire. C'est comme ça que j'ai structuré ce livre. Et puis ensuite, il y a la démarche qui est la démarche, bien sûr, les hommes ont toujours été témoins et ce volcanisme, quand vous voyez un volcan, au-delà de tout ce que vous imaginez, un volcan, ça change votre vie par le fait de voir la Terre vivre, le cœur de la Terre battre. Alors dans ce type d'éruption, on a tout de suite la crainte pour sa vie. En tout cas, si on est proche, on n'a même pas le temps d'avoir de crainte, puisque c'est des éruptions qui ont des conséquences qui sont des conséquences planétaires. Et aujourd'hui, voilà, on a une vision qui est une vision globale de tout ça. On sait que les grandes crises volcaniques, on le sait par les grandes crises du vivant à l'échelle de la planète, peuvent remettre en cause l'activité de la biologique.
Est-ce que l'humanité l'a échappé belle avec cet événement il y a 74 000 ans ?
Alors, notre humanité l'a échappé belle, mais à chaque fois, l'humanité échappe à ces éruptions. On pourra en discuter ensemble. Il y a eu même des conséquences qui sont des conséquences historiques, même à des endroits qui sont très éloignés des centres éruptifs. Et aujourd'hui, les sciences de la Terre ont cette connaissance de pouvoir connecter ces catastrophes avec ces éruptions et pouvoir voir comment notre planète vit.
Des volcans, vous en avez vu beaucoup vous-même, Arnaud Guérin, vous avez en tant que géologue et puis aussi en tant que réalisateur, enfin en tant que présentateur voix d'une série pour Arte qui s'appelle Des volcans et des hommes. Vous disiez à l'instant, ceux qui voient les volcans, ça change leur vie. C'était le cas pour vous ? Ça a changé votre propre vie ?
Ah, réellement, réellement. En fait, on peut reprendre ce qu'a vécu un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Empédocle, qui montait au sommet de l'Etna pour réfléchir à l'origine du monde. Il y a laissé la vie, on a trouvé une de ses sandales, et depuis, le refuge qui est au sommet de l'Etna s'appelle la Torre del Filosofo, la tour du philosophe. Et réellement, voir un volcan en activité, ça vous remet dans une dimension qui est tout autre. Vous êtes vraiment une poussière vivante qui regarde quelque chose qui vous dépasse totalement en termes d'énergie et qui vous subjugue dans ces... En fait, j'ai l'habitude de dire que les volcans, ça exauce le goût de la vie. C'est vrai pour les gens, les 850 millions de personnes qui vivent au pied des volcans actifs. Mais c'est vrai quand vous êtes sur le volcan et que vous faites votre métier de géologue ou de volcanologue.
On a souvent cette image très catastrophiste, au fond des volcans. Alors, vous le rappelez aussi dans votre ouvrage, les volcans apportent énormément aussi à la Terre.
Alors en fait, nous on a cette vision, c'est une vision philosophique et religieuse de notre Occident. Pour 95 ou 98% des gens qui habitent au pied des volcans, les volcans c'est porteur de vie, c'est ce qui apporte la vie. C'est un relief, il va y pleuvoir plus qu'ailleurs, c'est poreux, donc il va y avoir des sources, le sol y est plus fertile qu'ailleurs, on a de l'eau chaude, on a tout un tas d'avantages à vivre au pied des volcans. Et quand je dis que ça exauce le goût de la vie, c'est ça. Si vous vivez au pied de l'Etna, vous avez chaque année une récolte par mois. Vous commencez avec les citrons, les oranges, et puis vous finissez avec les olives, la vigne, les noisettes, les champignons, etc.
Donc ça avec la saveur de la cendre, on pourrait dire quasiment.
Tout ça avec le goût de la terre. Ouais. Vraiment, c'est la quintessence de ce que peut donner la planète.
Ouais. Ce volcan Toba, là, justement, 75 000 ans, quelles traces on en a en fait? Comment on sait que ça s'est passé comme ça à l'époque?
Alors, les très grosses éruptions volcaniques vont tout détruire à proximité du volcan. Le volcan va exploser littéralement, va rester dans le décor, j'allais dire, une caldeira, c'est-à-dire un grand trou. Le volcan va s'effondrer sur lui-même, sur la chambre magmatique, sous son propre poids. Et par contre, ça émet dans l'atmosphère et dans la haute atmosphère des particules. Et ces particules vont pouvoir faire le tour de la planète. Ça va retomber en particulier sur les calottes glaciaires. Donc les climatologues, les glaciologues vont pouvoir retrouver ces éléments-là. Ils sont marqués géochimiquement parlant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des éléments radioactifs à l'intérieur qui vont permettre de pouvoir dater de manière extrêmement précise ces couches. Et pour les glaciologues, dans les carottes de glace, on a des repères qui sont les repères, qui sont les grandes éruptions. Donc en fait, volcanologie, glaciologie, histoire du climat, tout ça c'est lié.
Ouais, donc il y a des strates, hein, c'est ça?
Exactement.
Et des strates très très claires, signifiant qu'il y a eu une éruption majeure à certaines époques.
Soit avec des cendres, soit avec des dépôts, soit avec des dépôts gazeux qui sont conservés dans la glace. Donc on va avoir des traces de fluor, on va avoir des traces de soufre, etc. Et on a des pics qui permettent de pouvoir reconstituer l'envergure de ce volcan qui rentre en éruption. Bien sûr, on n'a pas vu cette éruption, il n'y a pas eu de témoignage.
Une histoire de l'exploration des volcans, donc cet ouvrage chez Glénat que vous signez, Arnaud Guérin, c'est donc une grande histoire à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque vous revisitez tout ce qui s'est passé, en tout cas certaines des éruptions qui ont marqué l'histoire de notre humanité. Lorsqu'on évoque l'Antiquité, l'éruption de Santorin revient souvent. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de cet événement survenu, c'était quoi, en 1650, c'est ça, avant notre ère?
Exactement, on en sait de plus en plus, parce que les sciences de la Terre évoluent à vitesse grand V, et aujourd'hui, on a l'enregistrement de l'ensemble du cycle éruptif de ce volcan, de ce super volcan. On aime appeler ça un super volcan parce que ça a des conséquences qui sont des conséquences phénoménales à l'échelle de la Méditerranée entière. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un volcan, le volcan voisin, qui est juste à côté, qui est en train de donner une activité qui est une activité. Il y a une nouvelle île qui est en train de se former avec ce même type d'activité, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de subduction. Il y a la plaque africaine qui passe sous la plaque eurasienne. Et donc là, on a des quantités de magma qui sont très importantes et qui remontent. C'est un phénomène qui se fait à plusieurs au rythme de plusieurs centimètres par an en moyenne de passement d'une plaque sous l'autre. Et donc, on a sur le volcan de Santorin, on connaît cette éruption majeure, mais on en connaît plein d'autres qui marquent l'activité, le rythme de l'activité de ce super volcan.
En 1977, le volcanologue Maurice Kraft répondait à une question au sujet de l'éruption qui a détruit l'île de Santorin. Voilà ce qu'il disait.
Dans l'éruption du Krakatoa, il y a eu 36 000 morts. Il s'agit en fait de personnes qui ont été noyées par le raz-de-marée gigantesque qu'il y avait. Quant à l'éruption de Santorin, on n'en sait trop rien. Mais ce dont on est sûr, par contre, c'est que toute la civilisation minoenne a été liquidée, pourrait-on dire, par cette éruption. C'est-à-dire que ça a entraîné la fin de la civilisation minoenne. Et c'est pourquoi on situe actuellement, et avec beaucoup de raisons et énormément d'arguments, l'Atlantide de Platon, on la situe à Santorin.
Voilà, Maurice Kraft, une voix qui vous parle, hein, Arnaud Guérin.
Bah, plus que ça, oui. Je crois que ma passion de la Terre, je la dois vraiment à Maurice et Katia Kraft. Quand j'étais étudiant, quand j'avais un petit coup de mou pour mes examens, je mettais une VHS dans un magnétoscope. Et je l'ai regardé à la télé et d'un seul coup, j'avais le feu sacré. Mmh. Ça me permettait de passer mes examens. Et vraiment, c'est des gens qui ont su mettre le volcanisme au cœur des Français, ce qui est vraiment très rare, alors qu'on est un pays peu volcanique.
Quand il évoque cette civilisation qui a été rayée quasiment de la carte à cause de ce volcan, mmh. Est-ce que ça nous indique quand même qu'il faut se méfier parce qu'à toute époque, finalement, peut survenir ce type d'événement?
Vous savez, en fait, le risque volcanique, c'est l'aléa fois la vulnérabilité. L'aléa, c'est le type d'éruption. Donc ça, on les connaît plutôt assez bien. Mmh. La vulnérabilité, bah, c'est le nombre de populations que vous avez au pied du volcan ou sur le volcan ou à proximité. Là, à Santorin, on a connu l'année dernière une crise sismique très importante due principalement à l'activité du volcan voisin. Mmh. Et comme c'est une île qui est une île extrêmement touristique, là, on a une vulnérabilité qui est une vulnérabilité majeure. Je rajouterais une chose que Maurice Kraft résumait d'une manière vraiment assez extraordinaire. Il disait qu'un volcan actif, c'est un bâton de dynamite dont on connaît, enfin dont on sait que la mèche est allumée, mais dont on ne connaît pas la longueur de la mèche. Aujourd'hui, on est à la pointe de la science. On sait prédire les éruptions. Mmh. Mais on ne sait pas dire quand est-ce que ça va arriver. La semaine dernière, il y a 15 jours, le piton de la Fournaine est rentré en éruption. Ouais. Il y avait des gens sur le volcan et pourtant, les volcanologues de l'observatoire avaient pris toutes les précautions, avaient toutes les mesures, etc. Donc il y a un élément qui est un petit supplément d'âme. Alors, ce qui fait le piment quand on est sur un volcan, hein, c'est ce danger qui est porteur d'adrénaline, mais qui, pour les gens qui vivent au pied du volcan, est une menace importante.
Ouais, d'ailleurs, ça a été pour le couple Kraft, hein, ce qui a mis fin à leur vie, hein, quand même aussi. Hein.
Oui, en 1991, au Mont Hunzen. Dans une histoire qui est une histoire pas très simple, parce qu'en fait, il travaillait pour l'UNESCO, mais pour les Nations Unies sur un film de prévention des risques, justement.
Ouais, incroyable. Ils étaient au Japon, et donc
ils vont sur un volcan qui rentre en éruption. Maurice Kraft était passionné par les nuées ardentes. Il voulait absolument illustrer les nuées ardentes. Les nuées ardentes, c'est des épanchements de gaz à très haute température, 700 degrés, qui descendent à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure, sans frottement. Enfin, c'est vraiment l'ange de la mort. Hein. Et donc, il faisait mauvais, ils n'avaient pas pu accéder, faire un tour de reconnaissance en hélico. Mais leur aura leur avait ouvert les portes. Et aujourd'hui encore, moi, je suis retourné tourner au pied du Mont Hunzen. Je peux vous dire que les Japonais ont encore une forte rancœur, puisqu'il y a 52 personnes qui sont mortes avec Maurice et Katia Kraft. Ouais. Et donc, pour nous, voilà, c'est. Mais ça reste, grâce à leur travail, quelques mois plus tard, le Pinatubo rentre en éruption aux Philippines et on peut évacuer les gens grâce à leur film. Donc voilà. Mais petite chose, il faut jamais oublier que les volcans, ça tue peu. Un peu plus de 300 000 personnes depuis le 18e siècle, c'est-à-dire rien du tout par rapport aux grandes épidémies, par rapport aux tsunamis, par rapport aux tremblements de terre. Donc en fait, il faut relativiser cette notion du risque.
On va poursuivre cette exploration avec vous vers des éruptions d'ampleur exceptionnelle, hein, qui ont marqué l'histoire, et puis plus récemment aussi la science volcanique, avec des personnages hauts en couleur. Arnaud Guérin, vous êtes notre invité cet après-midi, et puis vous répondrez également aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Mais c'est quand même un métier extrêmement dangereux que vous faites.
Eh bien, disons qu'il y a 350 volcanologues au monde qui étudient donc des volcans actifs. Eh bien, il n'y en a même pas un par an qui meurt sur un volcan. Et on dit toujours, c'est une boutade, mais l'endroit le plus dangereux du monde, vous le connaissez, c'est le lit.
C'est la route,
non. C'est le lit. C'est le lit. Puisque 85% des gens y meurent.
Ah bon?
Donc, conclusion, ne vous couchez plus jamais et allez sur un volcan.
Et le second, c'est la route.
Et la route, on oublie toujours que la route, tue 400 000 personnes par an. Mmh. Les volcans, ils en tuent peut-être 100, 200 par an.
La voix de Katia Kraft, 1979, au micro de Radio-Canada. Arnaud Guérin, vous qui venez nous voir cet après-midi avec ce livre, Une histoire de l'exploration des volcans aux éditions Glénat. Vous y pensez, vous, au danger? D'abord, est-ce que vous avez vu beaucoup de volcans en éruption?
J'ai vu pas mal de volcans en éruption. J'ai même eu parfois peur pour ma vie. Je me rappelle une fois à l'Etna où on a vu... Il y a des moments où on se fait avoir comme des petits jeunes, hein, parce que en fait la curiosité est la plus forte. Ce qui est très dangereux avec le volcanisme, c'est que tout se voit pas. Alors il y a quelque chose qui se voit pas, c'est les gaz, mais surtout on voit pas ce qui se passe en dessous. Et donc on a approché le cratère sud-est de l'Etna qui faisait des paroxysmes comme il le fait là, de temps en temps. Et puis c'est arrivé d'un seul coup, le cône est devenu tout blanc parce que en fait le magma a remonté à l'intérieur, donc la vapeur d'eau sortait. Et donc, de 1 litre d'eau, vous passez à 1000 litres de vapeur. Donc, ça crée une surpression. C'est le moteur extraordinaire d'une fontaine de lave. Et en quelques secondes, en quelques minutes, il tombait autour de nous des Austin Mini. Et là, d'un seul coup, en fait, vous réfléchissez même plus. Vous avez le fil de vos souvenirs, de votre vie qui passe.
Ah, vraiment ?
Et d'un seul coup, vous mettez à courir. Je peux vous dire que Usain Bolt, côté, c'était rien du tout.
C'est vrai.
Je peux vous dire qu'on a été trois. Et là, on s'est mis à courir, mais comme des dingues.
Ouais.
Je sais pas, on a fait au moins 1,5 km en courant dans une pente avec des cailloux formidables. Et l'adrénaline, ça fait courir très vite. C'est une très mauvaise expérience. Je peux vous dire que vous avez une peur rétrospective ensuite. Mais voilà, ça fait partie.
Vous en avez tiré les leçons ou pas ?
Oui, moi j'en ai tiré les leçons.
Ou est-ce que vous restez indécrottablement curieux ?
Non, en fait un volcan, je dis souvent que ça ne sert à rien d'aller faire son jogging à contresens sur l'autoroute pour voir ce que ça fait le dimanche matin. Eh bien, en fait, ça ne sert à rien d'aller voir les volcans de trop près. Le volcanisme, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la compréhension. Comprendre les phénomènes. Mmh. Et donc, en s'approchant relativement près, on peut tout à fait les comprendre, sachant qu'il y a toujours une part qui est une part d'incertitude. Et donc, voilà, il faut l'accepter. Ça fait partie de la beauté de l'exercice.
Qu'est-ce qui caractérise, vous parliez des supervolcans tout à l'heure, d'un volcan plus classique ?
Alors, les supervolcans, par exemple, vous en connaissez un, c'est la baie de Naples avec le Vésuve, qui est un volcan qui a donné une énorme éruption en 79 après Jésus-Christ, puis des éruptions qui ont marqué l'histoire de la volcanologie, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et puis, en fait, quand vous regardez le Vésuve, dans le dos, vous avez un supervolcan qui s'appelait Champflégréen, qui est une immense caldeira, donc ça fait 20 km de diamètre.
Ouais, donc c'est un grand trou en fait.
C'est un grand trou. En fait, le problème des supervolcans, c'est qu'ils ne se voient pas. Vous en connaissez un autre qui s'appelle Yellowstone. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, vous avez le lac Taupo, qui est pareil, fait 25-30 km de diamètre. Et en fait, aujourd'hui, c'est un lac. Et pourtant, il a donné les plus grosses éruptions de l'histoire de la planète. Et donc, un supervolcan, c'est un énorme réservoir magmatique en dessous qui va se vider lors d'une éruption majeure. Donc, il faut bien imaginer que tout le magma va sortir. Plus le magma il va remonter et donc la pression, il va subir une baisse de la pression, donc il va se détendre et d'un seul coup, ça va exploser. Il faut bien voir que le magma, c'est de la lave plus des gaz dissous à l'intérieur. Et donc, ça va donner des panaches qui vont monter à 30, 40, 50 km d'altitude avec des conséquences qui sont des conséquences planétaires.
Alors, revenons à la baie de Naples, là, puisque vous en parlez. Là, c'est vraiment un lieu qui est observé comme le lait sur le feu aujourd'hui ?
Oui, en fait, à Naples, tout est volcanique, y compris le caractère des gens. Hein. Quand vous y vivez, c'est la ville la plus folle du monde, c'est la ville la plus volcanique. Mais l'activité, elle est permanente. Si vous allez dans les Champs-Flégréens aujourd'hui, il y a des garages automobiles où les parcs avec les voitures neuves qui sont emballées, le plastique est mangé par les gaz volcaniques qui sortent sur le... Et donc, si vous allez à Pouzzoles aujourd'hui, il y a des tremblements de terre en permanence, le plancher de l'océan monte et descend, la ville romaine sort, et puis elle redescend. Donc, en fait, tout est dynamique et les gens vivent vraiment sur le volcan. Là, on peut dire qu'on vit sur l'épine dorsale du poisson-chat, comme disent les Japonais.
Sauf qu'il y a un vrai danger à l'échelle de toute la Méditerranée ou
pas ? Oui, à l'échelle de l'Europe entière, puisque les dernières grandes éruptions qui ont donné les tufs napolitains, les tufs, en particulier le tuf jaune, qui est dans lesquels les Grecs sont allés chercher la pierre pour construire la ville, ça a touché, on trouve des dépôts dans l'Europe entière. Donc, si une éruption de cette intensité avait lieu aujourd'hui, bien sûr, ça causerait des dégâts qui seraient des dégâts majeurs.
Mais on s'y prépare ou pas ?
Alors,
sérieusement,
on s'y prépare. Ce qui est intéressant dans le volcanisme, c'est que le volcanisme, il y a toujours des signes avant-coureurs qui sont.
Là, il y en a un petit peu quand même.
Oui, alors ça, c'est du spectaculaire, mais c'est pas des signes avant-coureurs qui vous disent qu'il va y avoir une éruption magmatique. On connaît la dernière éruption des Champs Flégréens, c'est 1538, c'est Monte Nuovo. On a vu un petit volcan apparaître, naître dans la baie de Naples. Les grandes éruptions, elles sont précédées par sur le temps long, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années par des grosses activités sismiques, etc. Et donc ça, aujourd'hui, on sait bien le suivre. Bien sûr, la problématique, ensuite, c'est de pouvoir évacuer la population.
C'est ça, parce que là, ça concerne combien de millions de personnes, en réalité ?
Alors, la baie de Naples, en tant que telle, je crois que c'est, en globalité, c'est à peu près un peu moins de 2 millions de personnes. Si on parle de la Campanie et d'une bonne partie de l'Italie, vous imaginez la problématique. On sait que ces volcans, ont la capacité de donner ce type d'éruption. C'est toute la problématique. On voit aussi, par exemple, à l'Etna. L'Etna, l'année dernière, au mois de juin, a donné une très grosse éruption avec le cratère sud-est est en train d'avoir tendance à glisser et donc à donner des nuées ardentes. Ça donne des risques qui sont à prendre en considération. Et les volcanologues italiens de l'INGV suivent ça comme vraiment le lait sur le feu.
Vous parliez tout à l'heure du Vésuve. On va écouter l'extrait de ce docu-fiction, Le dernier jour de Pompéi.
Maîtresse ! Maîtresse !
Est-ce que tu l'as retrouvée ?
Je n'ai même pas pu sortir de la ville, maîtresse. La porte marine est encombrée d'hommes, d'animaux, de chariots qui essaient tous de fuir vers le sud. Il y a des cadavres plein les rues.
Où sont les autres ? Où sont les autres ?
Maîtresse ! Les dieux ont dû décider de tous nous tuer.
Le Vésuve et Pompéi, évidemment. Ça a marqué une rupture aussi dans l'histoire du volcanisme, ce qui s'est passé, là, cette époque.
Oui, et là, l'extrait illustre bien ce qu'on se disait juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une crise sismique quelques dizaines d'années avant, et puis la ville était en reconstruction. Mm-hmm. Et puis, on a vu des tremblements de terre apparaître, les gens ont fui, il restait les esclaves, et puis c'est eux qu'on a retrouvés. Excusez-moi Mathieu, j'ai plus votre question.
Mais si ça a marqué vraiment quelque chose de particulier dans l'histoire
du volcanisme. Ça marque l'histoire parce que y a la description de Pline le Jeune, qui fait la première grande description de l'histoire de la volcanologie. Donc là, ça marque vraiment d'une pierre blanche. La première description, il va décrire un pin parasol, c'est-à-dire le panache du volcan. Et depuis, on appelle ça en volcanologie une éruption plinienne. Nous les géologues ou les volcanologues, on aime nommer en fonction de ceux qui ont décrit les choses.
Donc là, ça a été le début de la science du volcanisme quasiment
Oui, c'est vraiment le début de la science du volcanisme. Et surtout, cette éruption, elle va se remettre l'histoire de l'humanité. Grâce aux fouilles qu'on entreprend au XVIIIe siècle, qui vont révéler le fait que l'éruption volcanique, ça a totalement figé une ville. Et encore aujourd'hui, c'est totalement saisissant quand on se balade dans les rues de Naples et encore plus à Herculanum, où on voit les squelettes des gens qui n'ont pas pu fuir, qui sont dans les garages à bateaux. Ils attendaient les bateaux pour pouvoir fuir vers la mer et ils ont vu ces nuées ardentes arriver. Et on voit ces mains qui protègent les visages et les gens étaient figés dans leur raideur cadavérique parce qu'ils ont vu arriver ce nuage de gaz qui s'appelle une nuée ardente.
Arnaud Guérin, justement, les archives, les témoignages accumulés au fil des siècles, ça représente une mémoire aussi du volcanisme, finalement.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les témoignages depuis Pline sont réutilisables par les scientifiques d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec ce que l'on sait, avec l'avancée de la science. Et donc, on se sert, par exemple, l'éruption de la montagne Pelée en 1902, qui a été décrite par Alfred Lacroix, grand scientifique français, qui fait ses relevés d'une manière extrêmement précise. Ces relevés sont utilisés aujourd'hui par les scientifiques qui travaillent sur ces éruptions explosives. Donc, toute cette mémoire de l'humanité est utilisée.
On va parler de science justement, et puis quelques grandes figures qui ont marqué aussi l'histoire de la volcanologie, avec aussi des éruptions plus récentes qui ont marqué là, ces dernières années. Arnaud Guérin, vous êtes notre invité avec ce livre, Une histoire de l'exploration des volcans, et vous allez répondre dans un instant au message qui arrive pour vous sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'image du volcanologue était un peu stéréotypée, collée à l'image de Taziev, c'est-à-dire le baroudeur des volcans. Voilà. Un volcanologue, c'était un baroudeur des volcans. Il privilégiait cet aspect-là. Mais ça collait avec aussi le développement de la science, qui était encore une science d'observation.
Extrait du documentaire Robin des volcans en 2013, la voix du volcanologue Patrick Allard, Arnaud Guérin. Vous êtes notre invité avec votre livre, Une histoire de l'exploration des volcans, c'est chez Glénat. Le baroudeur des volcans, Arun Taziev.
Oui.
C'était ça quand même. Hein.
Ah, c'était totalement
clairement.
Ça. C'est exactement comme les débuts de l'aviation avec ces merveilleux fous volants. Ben là, il y avait ces merveilleux volcanophiles, logs, ouais. Enfin en tout cas vulcanologues, comme il aimait ce qu'on l'appelle d'ailleurs. Ouais. Il était proche de Vulcain.
C'est ça, ce que n'aiment pas beaucoup d'ailleurs les volcanologues
non,
en général.
Non, non, parce que Taziev avait un côté un peu mystique. Hein. Il était ingénieur agronome au départ et il est devenu. C'est vraiment l'expérience. On faisait son expérience. C'était une expérience. Aussi d'amitié et d'entraide. C'était vraiment des expéditions avec... on aime à parler de la petite cour de Taziev. Il y avait Fanfan, dont je parle dans le livre, qui était son fidèle second. François Le Guerne, qui était un géochimiste. Mais avant tout, c'était des gens qui allaient se confronter aux forces de la nature. Et quand on voit les films, quand on voit les dangers qu'ils affrontaient, enfin, en tout cas qu'ils allaient chercher, parce qu'ils étaient volontaires, c'est absolument extraordinaire. Mais surtout, c'est le premier qui a compris l'impact visuel de ce monde qui était totalement soit réservé aux dieux, soit réservé
aux scientifiques.
Aux scientifiques et encore une fois, il faut bien imaginer que Taziev, quand il commence la tectonique des plaques, c'est 25 ans après.
Ouais. Donc,
on est vraiment dans un état de la science qui est balbutiant et on a besoin de défricheurs. Et alors là, c'est un défricheur extraordinaire parce qu'en plus, c'est une personnalité.
Alors c'est ça, parce qu'il a donné à voir au grand public aussi des volcans. Hein.
Ben, il a fait des tournées mondiales, il a compris que l'image était l'élément majeur, il a compris que le volcan c'était beau. Avant, on voyait juste l'éruption de loin et on en avait peur. Là, il se dit, non, moi je vais voir et je vais vous montrer. Et cratère en feu, c'est vraiment ça, c'est 1953, je crois. Hein. Quand vous ouvrez le livre, voilà, on va aux enfers, à l'entrée des enfers.
Et ça, vous ne l'avez pas oublié quand vous avez pensé à cette série pour Arte, des volcans et des hommes, Arnaud Guérin?
Ben,
Il y avait un petit bout d'Arun Taziev dans votre cerveau.
Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, parce que quand on réfléchit à faire une série documentaire, on en a fait 35, l'idée, c'était de ne pas refaire une série sur les volcans, comme on en a déjà vu, mais surtout de lier le destin du volcan au destin des hommes. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, oui, bien sûr, de l'humanité, pardon. Parce qu'il y a 850 millions de personnes qui vivent de près ou de proximité des volcans actifs. Donc c'est une bonne part de l'humanité. Et si vous regardez, ben en fait, on leur doit beaucoup. C'est des produits d'exception, c'est une agriculture extraordinaire. Et puis c'est toujours c'est presque un travail d'anthropologue de pouvoir aller voir ces petites communautés qui vivent dans des milieux extrêmes, qui ont beaucoup de choses à nous dire sur comment s'adapter, et aujourd'hui avec le changement climatique, etc., comment on s'adapte à des milieux extrêmes.
Donc vous êtes allé dans le monde entier voir cette diversité aussi volcanique.
Oui.
Quel est le volcan peut-être qui vous a le plus marqué là, au cours de vos voyages pour la série?
Alors le volcan, il y a des volcans qui marquent pour le volcanisme, donc pour le géologue que je suis, et puis il y a des volcans qui marquent pour l'humain.
Alors pour le volcanisme.
Alors pour le volcanisme, être au-dessus des lacs de lave du cratère du Kilauea à Hawaï. En éruption, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous laisse un souvenir impérissable. Mmh. C'est absolument extraordinaire, c'est une montée d'adrénaline fantastique. Et vous êtes vraiment là, au-dessus de la colonne de magma qui bouillonne. Après, être avec les chamans au Guatemala, au pied d'un volcan très actif qui s'appelle le Santiaguito, les volcanologues attendent une éruption et le chaman vous dit, moi, en fait, je vais rentrer en communication avec le volcan. Et il va me répondre.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il raconte dans ces cas-là ?
Et en fait, il rentre en communication avec le volcan et le volcan lui répond. Je peux vous dire que vous perdez toutes vos certitudes de scientifique. et en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette relation entre ces hommes et ces volcans. C'est vraiment cette proximité de vie.
Plus récemment, il y a des événements qui nous ont beaucoup marqués, ceux par exemple des éruptions islandaises, et vous êtes allé à plusieurs reprises sur place, Arnaud Guérin. Le 10 novembre 2023, par exemple, Grindavík, dans le sud-ouest de l'Islande, subissait plus de 200 tremblements de terre en quelques heures. La terre s'est littéralement ouverte, hein, le bitume s'est déchiré, la ville a été évacuée en urgence. Après 800 ans en sommeil, donc, un volcan s'est réveillé. On va écouter une Française sur place, Julie, qui est ranger et qui vit en Islande.
Alors là, c'est incroyable, mais du coup, sur les stations GPS, ce qui a été recensé, c'est que la ville de Grindavík s'est affaissée de 1,40 m. On va dire que du coup, Grindavík est quasiment perdue. C'est impossible de pouvoir retourner dans une ville qui a subi autant de changements. Je me demande ce que je fais là, à voir des maisons se faire complètement détruire par de la lave. Je me demande quelle est la limite très fine qu'il y a entre mon métier de ranger, donc de voir scientifiquement ce qui se passe, et puis bah, personnellement, où ça me touche beaucoup, de voir que des gens ne pourront plus jamais retourner chez eux, donc c'est très difficile. Enfin, en tout cas, c'est pas un voyage en hélicoptère que je souhaitais faire, en tout cas pas dans ces conditions-là.
Voilà, cette ranger donc française hein, qui vit en Islande, Arnaud Guérin, que vous connaissez, que vous avez rencontré sur place. Grindavík, c'est une ville fantôme aujourd'hui en Islande ?
Alors en fait, ils ont décidé de réhabiter la ville.
Non mais c'est incroyable.
Donc là, on est vraiment dans une démarche de réappropriation. Ouais. En fait, ils ont construit leur ville parce que c'est un port de pêche juste au niveau des zones de pêche très importantes du sud de l'Islande.
Mais la ville s'est affaissée, vraiment ?
Oui, la ville s'est affaissée, mais ils étaient juste au bout de la fracture éruptive du XIIe siècle. Ouais. On a déjà eu ce type d'activité avec plusieurs éruptions entre le IXe et le XIIe siècle. Mmh. On appelle ça les feux de Reykjanes. Et donc, aujourd'hui, on attend une nouvelle éruption. On ne sait pas si le cycle est en train de se terminer ou si le magma est en train de s'accumuler de manière plus importante en dessous.
Donc en attendant, on réinvestit la ville.
Oui, alors là, ils ont décidé, c'est très démocratique comme à chaque fois avec ces Scandinaves, hein, comme au temps des Vikings, la halle des sports n'a pas été détruite. Pourtant, à côté, le parking est descendu de 4 mètres. Mais ils ont décidé de pouvoir réinvestir la ville s'ils le pouvaient. Donc ils disent que l'année prochaine, ils vont réouvrir l'école. Donc en fait, ils vivent vraiment. Il faut bien voir que les Islandais ont une relation au volcanisme qui est tout à fait particulière. Ils sont européens comme vous et moi, mais ils ont ce vieux fond scandinave qui croit dans les forces de la nature. Et donc ils n'ont pas de problème avec ça. D'ailleurs, quand il y a une éruption en Islande, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend son gros 4x4 et qu'on va voir.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une relation très mystique avec le volcan ?
Oui, il ne faut pas oublier que les Islandais...
Ou animistes ?
Oui, presque animistes. En tout cas, les Islandais croient aux forces, aux personnages du monde caché, ce que l'on appelle le monde caché là-bas. Mm-hmm. C'est-à-dire les elfes, les trolls, etc., les fantômes, les revenants. Mais en tout cas, ils ont une relation avec la Terre qui est assez extraordinaire, ce qui a alimenté un genre littéraire qu'ils ont fait connaître qui s'appelle les sagas. Et donc tout ça, le volcanisme là-dedans joue un rôle qui est un rôle phénoménal.
Et on a vu à quel point les volcans islandais pouvaient aussi impacter le continent européen. Hein.
1783.
Oui, mais plus récemment même.
Oui, alors l'Eyjafjallajökull en 2010, avec ses conséquences sur le trafic aérien. Et puis 1783, cette éruption dont les conséquences climatiques sont une des causes de la Révolution française. On le sait aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que l'Islande, pour nous, c'est vraiment le volcanisme de proximité. Oui. Au centre du système climatique qui nous touche avec les dépressions qui viennent de l'Atlantique. Et donc l'Islande fait partie de notre banlieue volcanique.
C'est quasiment la porte à côté, effectivement. Voilà. Allez, on passe aux questions pour vous, Arnaud Guérin. Alors justement, au sujet de ces volcans islandais, Gilles vous demande, Arnaud Guérin, si une éruption islandaise pourrait plonger l'Europe dans l'obscurité pendant plusieurs mois. Alors, il n'y a pas que le trafic aérien.
Alors, il n'y a pas que le trafic aérien. En fait, en Islande, il y a différents types d'activités volcaniques. Il y a des volcans qui sont des volcans normaux, ce qu'on appelle des volcans centraux, stratovolcans. Et puis, il y a des grandes failles actives. Et la problématique en Islande, c'est la présence de la glace.
Ouais.
Quand on va avoir des gros volcans avec des grosses activités volcaniques, on peut avoir des conséquences qui peuvent être des conséquences très importantes. Il y a une éruption à la fin du 19e siècle d'un volcan qui s'appelle Askja, qui est une grande caldeira en plein centre de l'Islande, avec un petit cratère qui s'est formé en juin de cette année 1873, je crois. En 6 heures, les cendres étaient sur Stockholm. Ça montre juste la proximité. Et on connaît dans l'histoire de l'Islande des très grandes éruptions volcaniques qui ont des conséquences, qui sont des conséquences importantes. Je vous parlais de 1783,
alors, l'éruption
du Laki.
Ça a eu une incidence justement sur le climat, les récoltes.
Alors, ça a eu une incidence sur le climat, sur les récoltes. Ça, c'est ce qu'on imaginait jusqu'à l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait des gaz qui arrivaient aussi. On a commencé à éplucher les registres des paroisses.
Ouais.
Et on s'est aperçu que dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a à peu près 10 à 15 000, peut-être 20 000 personnes qui sont mortes des conséquences des inhalations des gaz volcaniques qui venaient d'Islande. C'était les plus fragiles, les jeunes enfants, les personnes âgées. Il y a une étude qui a été faite dans le Poitou aussi en France, qui a donné des résultats à plusieurs milliers de personnes. Et donc, quand je vous parlais de l'Islande comme étant notre banlieue volcanique, c'est exactement ça. Et on connaît en Islande des éruptions qui sont des éruptions absolument gigantesques, hein, parce que il faut bien voir que l'Islande est un système qui est la dorsale médio-atlantique couplé à un point chaud. Donc en fait, on a deux phénomènes volcaniques qui se surimposent pour donner une île qui a un peu moins de 20 millions d'années et donc qui peut être à l'origine d'éruptions très importantes.
Donc l'idée d'une obscurité, c'est-à-dire le soleil vraiment anéanti par les nuages de poussière.
Oui, là on n'est pas dans des éruptions, alors sauf les éruptions sous-glaciaires, c'est une très grosse éruption sous-glaciaire advenait, mais on n'est pas dans ce type d'activité.
Christophe nous dit, dans les vieux dessins animés, on imaginait les génies du mal avoir leur base dans un volcan pour exploiter leur énergie. Vu l'énergie que contient un volcan, est-ce que c'est une option étudiée par les scientifiques, de pouvoir réutiliser ça pour produire de l'énergie?
Ah ben on le fait directement. Si vous parlez, on parlait des Islandais, c'est la géothermie. En Islande, si vous prenez votre douche à Reykjavik, vous allez voir, ça sent les œufs pourris.
C'est ça, le
soufre. C'est très bon pour les cheveux, pas très bon pour l'odeur, mais en tout cas, et si on pouvait exporter l'électricité, l'Islande deviendrait un émirat énergétique grâce à cette géothermie, avec en plus les barrages, mais surtout avec cette géothermie.
Ouais, et aujourd'hui, là, c'est une source inépuisable en plus.
C'est une source inépuisable avec aussi des éléments qui peuvent être intéressants, puisqu'il y a des exemples de séquestration de CO2 dans ces forages géothermiques. En fait, on réinjecte du CO2 dans la croûte terrestre.
Marie demande si le réchauffement climatique peut avoir une influence sur l'activité des volcans. C'est une question qui revient régulièrement quand on fait une émission sur le sujet.
C'est l'inverse, mon général, parce qu'en fait, les éruptions volcaniques peuvent avoir des conséquences majeures sur le climat, à différentes échelles, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle globale. Et on connaît des éruptions, par exemple en Islande, une éruption en 934 qui a fait disparaître une civilisation en Chine.
Ouais. Clémence demande si l'intelligence artificielle peut aider à prévenir des futures éruptions.
Ah ben, de toute façon, dans toute étude scientifique, il y a une phase d'analyse de données. Donc, l'analyse de données, avant, c'était des étudiants qui le faisaient. Maintenant, c'est de l'IA qui le fait.
Philippe demande, est-ce qu'il est vrai que des volcanologues ont fait l'objet de plaintes devant les tribunaux pour ne pas avoir prévu une éruption? Ça a été le cas en Italie, hein?
Alors, ça a été le cas en Italie avec...
Alors, je confonds avec les tremblements de terre.
Alors, ça a été le cas, par exemple, sur l'Etna, où un volcanologue qui était en charge de la surveillance avec les autorités ont décidé de dévier une coulée de lave. La coulée de lave est allée dans la commune d'à côté.
Ouais.
Vous imaginez les conséquences, c'est-à-dire que là, c'est la décision de l'homme qui a causé le malheur de la collectivité qui avait juste à côté.
Et c'est facile de dévier une coulée de lave?
Alors, on le fait depuis l'éruption de 1600, du 17e siècle, la grande éruption du Vésuve, de l'Etna, de manière archaïque à l'époque. Ouais. On l'a fait et maintenant, c'est totalement interdit. C'est-à-dire que la nature doit rester la nature. Si ça doit détruire, c'est elle qui prend la décision, si je peux me permettre d'utiliser cette formule.
Louise demande, ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut encore découvrir des volcans sous-marins comme terrestres? Et si oui, où peuvent-ils se trouver?
Alors, des volcans sous-marins, il y a tout à découvrir, puisque globalement, il y a 70% des volcans de la planète qui sont sous les océans. Et des volcans terrestres, il y en a beaucoup, puisqu'il y en a à peu près 50 qui sont en éruption chaque année.
Mais on en a encore à découvrir sur
1500
Terre.
Actifs. Et aujourd'hui, par exemple, exemple, on connaît par les carottes glaciaires, on connaît des éruptions dont on ne connaît pas le volcan qui est à l'origine.
Merci beaucoup Arnaud Guérin, en tout cas d'être venu nous parler de cette histoire de l'exploration des volcans. Ça fait l'objet d'un ouvrage chez Glénat avec beaucoup d'iconographie également. Merci beaucoup à vous. Merci à Joël Levert qui nous a préparé ce dossier aujourd'hui. Julien Thévenot à la technique et à Mazir Amadaïn Guest qui réalisait cette émission.